Une bonne nouvelle d'après Marc. Lecture suivie de l'évangile de saint Marc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Contesté, Jésus est contesté par ceux qui ne l'écoutent pas, c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. Mais la mission continue. Nous allons aller encore au-delà des frontières. Nous allons vertir les Sidons le long de la côte libanaise. Et nous allons terminer ce passage avec la déclaration que les apôtres et Pierre en leur nom fera de Jésus. Et ça se passera aussi à Césarée de Philippe, au-delà de la frontière, sur le territoire syrien actuel. C'est donc à l'extérieur que les choses peuvent arriver. À l'extérieur de quoi? À l'extérieur de qui? Écoutons la suite.
Partons vers le nord, vers Tyr, vers la mer. Ni une ni deux, on se mit en route. Sur le chemin, il entra dans une maison, pensant qu'on ne l'y connaissait pas encore. Impossible. Dans l'instant, une femme apprenant qu'il était dans les parages court se jeter à ses pieds. Elle a une fille, encore toute petite, qu'un mauvais esprit habite. C'est une grecque, originaire de Syro-Phénicie, une étrangère pour tout dire. Elle supplie Jésus de guérir sa fille. Jésus la regarde un instant et lui déclare, au grand scandale de ses compagnons d'ailleurs, qui ne s'explique pas encore son attitude, « Laisse donc les enfants de la maison se rassasier d'abord. Ça ne se fait pas de leur prendre le pain de la bouche pour le jeter aux chiens sous la table. » La femme ne se démonte pas et lui répond du tac au tac. Jésus n'en attendait pas moins d'elle. Et maintenant, les compagnons ont compris et ils soupirent d'aise. « Oui, Seigneur, tu as raison. » Mais les chiens sous la table mangent les miettes que leur jettent les enfants de la maison. » Alors Jésus lui déclare haut et clair, « À cause de ce que tu viens de dire, va, ta fille est guérie. » La femme courut en hâte chez elle et elle trouva sa fille, calmement allongée sur son lit, le démon l'avait laissée. Ce changement d'air lui avait fait du bien. Peu de temps après, il quitta Tyr et par Sidon rejoignit la mer de Galilée, en traversant la Décapole. Rappelez-vous, les 10 villes. Voilà ce qu'on lui amène, un sourd. Il s'arrête. L'homme est non seulement sourd, mais quasi muet. Il faut qu'il lui impose les mains. Cette fois-ci, Jésus le prend à l'écart. Il lui touche les oreilles et de sa propre salive lui humecte la langue. À distance, on observe et on est bien indigné de cette nouvelle technique. Puis il lève les yeux au ciel et pousse comme un gémissement. « Epata, dit-il en araméen, c'est-à-dire « ouvre-toi ». Les oreilles de l'homme s'ouvrent et sa langue se délie pour la laisser parler distinctement. Et comme à l'accoutumée, Jésus leur demande de n'en parler à quiconque. Mais comment pouvait-il attendre que les gens se taisent et qui sont les témoins de ces merveilles? Alors plus il interdisait et plus il le clamait complètement renversé, il racontait à tous « Il fait le bien, il fait entendre les sourds et parler les muets. » On avance, et c'est encore la foule qui grossit, une foule qui a faim, une foule misérable et qui attend tout de lui, de Dieu. Jésus rassemble les 12 près de lui et leur confie. « J'ai mal au ventre pour tous ces gens. Voilà 3 jours qu'ils ne me quittent pas, et ils n'ont rien pris. » Si je les renvoie à jeun, ils vont défaillir en route. Certains sont partis de très loin. Oui, mais comment leur procurer du pain? Ici, c'est le désert. Alors Jésus s'enquiert. On a du pain? Oui, 7. Et il enjoint à la foule de s'allonger par terre, comme la fois précédente. Il prend les 7 pains, rend grâce à Dieu, les partage et les donne à ses compagnons à servir. Eux servent la foule. On a aussi des poissons à friture. Jésus les bénit et dit de les servir aussi. Cette fois aussi, les compagnons accomplissent machinalement les gestes qu'on leur commande, comme si tout cela était naturel. On mange à satiété, on ramasse tout ce qui reste dans 7 paniers, et il y a bien 4000 personnes, et après on peut congédier tout le monde. Voilà encore une bonne chose de faite. C'est en remontant dans la barque que les compagnons se rendirent compte que le premier prodige du pain s'était déroulé au même endroit, ou bien, non, ils ne savaient plus. Ils avaient parfois le sentiment de rêver, Mais pourtant, ce lieu, ce lac, la montagne, ils n'en croyaient plus leurs yeux. La barque mit le cap sur Danamuta, où l'attendait déjà l'embarcadère des pharisiens qui l'engluèrent dans une dispute. Jésus devait leur donner un signe du ciel. Il poussa un soupir d'exaspération, et la voix éraillée leur déclara « Mais pourquoi votre engeance veut-elle un signe ? Laissez-moi vous dire que vous n'en aurez pas. » Et aussitôt il reprit le bateau pour changer de rive. Les compagnons n'eurent même pas le temps d'oublier d'acheter du pain pour le groupe. Ils n'en avaient gardé qu'un seul dans la barque avec eux, et cela les tracassait. Après un silence, loin de la rive et de ses miasmes, Jésus leur recommanda de se garder du levain des pharisiens et des partisans qu'Hérode, tandis qu'eux-mêmes continuaient de maugréer les uns envers les autres à cause du pain qui allait manquer. Jésus se rend compte qu'on ne l'écoute pas. « Qu'est-ce que vous avez à ranchonner comme ça ?» Il suit leur regard braqué sur le sac à pain. « C'est à cause du pain ?» Alors il éclata. « Vous n'avez pas encore réalisé ? Mais décidément, vous ne comprenez rien à rien. Vous êtes complètement bouché. Vous avez des yeux et vous ne voyez rien. Vous avez des oreilles et vous n'entendez rien. Vous avez oublié ? Quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5 000 personnes, combien il restait de couffins ? 12. Et des 7 pains pour les 4 000, combien ? 7. Et c'est toujours pas clair ?
Silence.
Bethsaïda fut bientôt en vue. À peine débarqué, c'est l'attroupement. On ne s'étonne plus. C'est un aveugle qu'on amène à Jésus en lui demandant de le toucher. Cette fois encore, Jésus prend l'aveugle par la main, sort avec lui de l'agglomération, il humecte ses paupières avec sa propre salive, lui impose les mains et lui demande « Vois-tu quelque chose ?» L'autre, les yeux plissés, répond « J'aperçois des hommes, je suppose, les spectateurs qui se tenaient à distance et se rapprochaient insensiblement, je les vois marcher comme des arbres, et Jésus lui impose les mains sur les yeux une seconde fois. Ça y est, il est rétabli, et il voit clair. Il fixe tout distinctement. Il sourit à Jésus qui le renvoie avec ces mots, « Rentre chez toi, sans passer par Bethsaïda. » Jésus fait un signe de ralliement à l'attention de ses compagnons, et ils prennent la route du nord-est vers Césarée de Philippe. C'est d'abord le silence. Ils voient tellement de choses. Ils ne comprennent pas. Ils sont impressionnés. C'est Jésus qui rompt le charme. « Que dit-on de moi ?» leur demande-t-il à brûle-pourpoint. Ils s'arrêtent. Ils le regardent. « On te prend pour Jean-Baptiste, certains pour Élie, d'autres pour un des prophètes. » On reprend la marche. Silence. Ça grimpe un peu pour arriver à Césarée. Arrivé à une hauteur d'où on découvre les collines, Jésus s'arrête à nouveau. « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» Dans l'air pur et le silence des solitudes, alentour, retentit la voix devenue étrange de Pierre. « Tu es le Messie !» À ce mot de Messie, chacun recule d'un pas devant Jésus, comme pour souligner son adhésion et sa révérence. Jésus paraît soudain plus grand, plus beau, plus majestueux et paradoxalement plus humain que jamais. N'en dit encore rien à personne. Le Messie doit beaucoup souffrir. Il doit être rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, les pharisiens. Il doit être tué, et après 3 jours, il doit se relever d'entre les morts. Dans leur cœur retentit comme un coup de tonnerre. Jésus disait tout cela, ouvertement, sans mâcher ses mots, sans crainte, souverainement. Quand on reprit la marche, Pierre s'approcha de Jésus et lui fit des reproches en aparté. Mais Jésus le repoussa et assez fort pour que tous l'entendent. Il enchaîna « Arrière, Satan ! Ah, tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme un homme !» Ils entraient à présent dans l'agglomération et la foule commençait d'affluer. Jésus s'adressa alors à tout le monde. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à son ego et qu'il porte sa croix comme moi. Oui !» Celui qui veut sauver sa vie à tout prix va à sa perte. Mais celui qui renonce à sa vie comme moi et pour les mêmes raisons que moi, celui-là se sauve finalement. Hein ? Dites-moi, à quoi bon gagner l'univers entier s'il faut y laisser la vie ? Qu'est-ce que vaut une vie ? Laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un devait rougir de moi et de ce que je dis, En cette époque pourrie qui est la nôtre, le Messie saura rougir de lui le jour de son retour dans la gloire de Dieu et de tous les habitants du ciel. Attention parmi vous, il en est qui ne mourront pas avant d'avoir vu de leurs yeux l'établissement formidable du règne de Dieu.
Quelle force encore, quelle affirmation. Depuis le début de cet épisode, jusqu'à la fin, nous sommes traversés par le sentiment de l'immensité et de la proximité de cet homme-Dieu qui nous fait passer d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, depuis les réalités les plus quotidiennes, de la faim, du pain, mais du quotidien des hommes, à la révélation de sa propre nature. Alors que les apôtres soient impressionnés, qu'ils n'y comprennent plus rien, qu'ils ne sachent plus où ils en sont, quoi de plus, j'allais dire, surnaturel ou naturel, il faut peut-être passer par là. Mais le texte culmine, comme vous l'avez vu, il y en aura trois chez Marc, de l'annonce de ce qu'on appelle le kérigme, kérux, qui veut dire le héros, kérigma, le contenu du message. Il s'agit de bien préciser que le Messie doit être arrêté, qu'il doit souffrir et être mis à mort, et que le troisième jour, il ressuscitera d'entre les morts. Voilà ce que la catéchèse de Marc, catéchèse romaine, d'abord sous l'impulsion de Pierre, et catéchèse des apôtres, pour l'expérimentation, va devoir faire comprendre. Le triomphe final passera par la mort, d'où l'emportement sacré du Fils de Dieu.
C'était Une bonne nouvelle selon Marc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.